السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي. Mes chers frères en islam, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous a créés. Allah nous a donné la vie et Allah Rabbul Izza de sa clémence nous donne la possibilité de vivre donc cette vie éphémère sur ce dunya. Mes chers frères en islam, cela n'est qu'un rappel, mais c'est un des points les plus importants et les plus souvent cités de le Coran et dans les textes prophétiques. Nous sommes de passage sur terre avec un temps limité et nous devons réussir ce passage en donnant une orientation à notre vie, c'est-à-dire en faisant les bons choix. Chaque enfant qui naît, c'est une créature d'Allah qui commence son parcours de ce dunya. Et chaque personne qui meurt, c'est une personne qui a complété, qui a terminé son parcours de ce dunya et qui retourne auprès de son Seigneur qui jugera son parcours. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire, exceptionnel, concis, mais en même temps profond, qu'on retrouve dans « Wallayli idha yarsha » lorsqu'Allah Azza wa Jal révèle « Inna sa'iyakum lashatta ». Vos efforts sont divergents. Vos efforts, votre parcours, vos choix, vos actions, l'orientation que chaque mu'mine, chaque croyant donne à sa vie diffère, est différent d'une personne à l'autre. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, à la fin des versets, cite les deux cas de figure. Il y a « فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى » et il y a de l'autre côté « وَأَمَّا مَنْ بَخِلَى وَاسْتَغْنَى » Et pour ceux qui ont donc suivi les ordres d'Allah, qui ont avancé sur le droit chemin, Allah Azza wa Jal promet « nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur » « فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى » Et ceux qui ne suivent pas le droit chemin « فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى » promesse de grandes difficultés, qu'Allah nous protège. Donc, on doit retenir ce terme « inna sa'yakum lashatta » nos parcours sont différents, nos choix dépendent de nous-mêmes. Et en fonction de notre parcours sur terre, durant les années qu'Allah nous accorde, en fonction de ses choix, en fonction de ses actions bonnes ou mauvaises, ben nous définissons comment nous allons mourir. Nous définissons comment nous allons quitter ce dunya. « Kullu nafsin dha'iqatul dha'iqatul maut » Certaines personnes meurent sur le droit chemin. Allahumma ja'alna minhum. Dites Amin. Qu'Allah nous accorde husnul khatima. Amin. Et d'autres personnes, malheureusement, meurent sur le mauvais chemin. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège. Nas'alullah as-salamata wa al-afiya. En fonction de notre parcours sur terre, on retient le verset Inna sa'yakum lashatta. Ben, nous allons nous-mêmes construire notre étape de la tombe. Pour certaines personnes, la tombe est un jardin du paradis. Avec grande facilité, le défunt répond aux questions des anges. Et pour d'autres personnes, cette tombe, c'est un trou du paradis qu'Allah nous protège. Une fois, Uthman ibn Affan était devant une tombe et il pleurait abondamment. Les sahabas lui ont demandé « Oh Uthman, pourquoi tu pleures autant devant une tombe ?» Uthman a dit que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que la tombe est la première étape de l'au-delà. Celui qui réussit cette étape, toutes les étapes qui vont venir après seront faciles. Mais si dès le départ on a des difficultés dans l'étape de la tombe, ça veut dire que toutes les étapes de l'au-delà seront difficultés sur difficultés. Combien de personnes avons-nous enterrées ? Combien de janaza avons-nous porté sur nos épaules, avons-nous officié ou assisté? Combien de fois on a été au Qabrastan, au Maqbara, on a fait doua pour les défunts? Mais on doit garder à l'esprit qu'un jour ce sera notre tour. Et inna sa'yakum lashatta, vos chemins sont différents et ces chemins s'arrêtent lorsque l'ange de la mort vient reprendre notre âme. On comprend déjà ce qu'on essaie de mettre en avant, nos parcours sont différents, on a donc besoin de tracer notre chemin. On a besoin de prendre les bonnes décisions, on a besoin de faire les bons choix pour que toutes les étapes de l'au-delà soient faciles et que notre parcours, notre sa'i, comme un sa'i entre Safa et Marwa, un sa'i, un parcours, que ce parcours soit agréé et accepté par Allah et ses efforts soient maqboul. En fonction de notre parcours sur terre, nous définissons nous-mêmes comment est-ce que nous serons ressuscités. Il y aura des gens qui seront ressuscités le jour de Qiyama et invités pour être sous l'ombre du trône d'Allah. Ça, ce sont là les meilleurs des créatures d'Allah. Le jour de Qiyama, ils seront invités pour être sous l'ombre du Arsh de Rahman. Et d'autres personnes, qu'Allah nous protège, vont connaître les premières humiliations de l'au-delà. Nas'alullah al-afiya. En fonction de notre parcours sur terre, inna sa'yakum lashatta. Chacun définit son parcours. Chacun est maître, on pourrait dire, de son destin. Le destin est de la part d'Allah. Mais Allah nous donne la possibilité de choisir. Le libre arbitre appartient à l'être humain. En fonction de notre parcours sur terre, en fonction du déroulement des comptes dans l'au-delà par rapport à nos actions, on aura le paradis ou l'enfer. Il faut savoir que là-haut, il n'y a pas de troisième possibilité. Soit c'est le Jannah qui est synonyme de l'agrément d'Allah, soit c'est le Jahannam qu'Allah nous protège. Et certains musulmans seront invités pour entrer dans le paradis, biray les hisab. Le prophète a une vision de sa umma, et dans cette umma, 70 000 personnes yadkhuluna al-jannata biray les hisabin wa la azab. Allahumma ja'alna minhum. 70 000 personnes qui entrent au paradis sans même avoir à répondre à une seule question de la sa'yukum, de la sa'i de ce dunya. D'autres croyants, là on parle des musulmans bien sûr, d'autres personnes devront répondre de leurs péchés. D'autres personnes, qu'Allah nous protège, vont devoir expier leurs péchés dans l'enfer jusqu'à ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, à un moment donné, il va chercher, il fait le shafa'a pour toutes les personnes qui ont un atome de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dans leur cœur, mais qu'Allah nous protège de cette situation. Et il y en aura qui iront directement en enfer également, qu'Allah nous protège. Mes chers frères, en islam, ce qu'on doit retenir à travers ces quelques enseignements basiques issus du verset de Wallayli Idha Yarsha, c'est que l'au-delà, c'est le dénouement. L'au-delà, c'est le dévoilement de notre sa'i, de notre parcours et de nos efforts dans ce monde. Inna sa'yakum la shatta. L'au-delà, c'est le moment de vérité. L'au-delà, c'est l'endroit où il n'y a plus d'hypocrisie. C'est l'endroit où on n'a plus le droit de faire des interprétations personnelles de la religion. Il n'y a plus de légèreté concernant la religion. Le jour de Qiyama, on n'est plus dans cette situation où, comme on aime bien le dire de ce monde, on aime reconsidérer les priorités. Et du coup, tout ce qui a trait à la religion, on va laisser en dernière position parce que la priorité, ben, c'est autre chose. Toutes ces insufflations des shaitans, qu'Allah nous protège, mais si on continue à avancer dans ces pièges, on risque d'avoir de mauvaises surprises, qu'Allah nous protège. Le jour de Qiyama, c'est également le moment, le lieu, l'étape où il n'y a plus d'ostentation, on ne fait plus semblant, où il n'y a plus de mensonges. Yawma tubla sarair, tout ce qu'il y a dans le cœur, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Imam Sa'di, rahimahullah, de ce tafsir, nous rappelle que dans ce monde, on peut cacher plein de choses, mais le jour de Qiyama, la vérité apparaît sur le visage. يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ, avec des visages qui seront illuminés par la lumière de la foi et des bonnes actions, et d'autres visages qui seront obscurcis, soit par le kufr, soit par le nifar, l'hypocrisie, qu'Allah nous protège, ou par les kaba'ir, les mauvaises actions qu'un homme a pu cumuler sans demander pardon à Allah Azza wa Jal. Mes chers frères, l'au-delà, c'est aussi la justice divine pour tous les crimes, tous les manquements, toutes les injustices, qu'il s'agisse d'individus ou les crimes commis par des groupes, par des États, par des gouvernements. Et on pense au génocide en Birmanie et dans beaucoup de pays musulmans, on pense à la Syrie. Le jour de Qiyama, c'est le jour où Allah Azza wa Jal fera la justice. Liman al-mulku al-yawm, liman al-mulku al-yawm, lillahi al-wahid al-qahhar. La royauté appartiendra à Allah Azza wa Jal, celui qui est unique, celui qui est le plus fort. Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Toutes les frustrations que nous cumulons, tous les sentiments d'injustice que nous éprouvons en constatant les événements sur le plan géopolitique, ben, toutes ces frustrations, ben, ils seront évacués parce que le jour de Qiyama, c'est le jour où Allah Azza wa Jal fera réellement la justice. Et on pense également à ces... Et je multiplie les guillemets à ces pseudo-musulmans qui depuis 5 ans, 6 ans, depuis une dizaine d'années, multiplient les attentats, ces actes atroces en Europe, en Amérique, dans différents pays du monde, des actes aussi machiavéliques que méthodiques et qui ont bouleversé la vie des musulmans sur les 5 continents, privant beaucoup de musulmans de leur liberté et faisant passer ces musulmans parce qu'ils portent la barbe, parce qu'ils ont une appartenance à la Oumma du Prophète, mais leur faisant passer pour des potentiels terroristes ou les associations parfois comme étant des cellules dormantes, toutes ces tohmas, tous ces dhulms, tous ces taklifs, on pourrait dire ces difficultés, ben là aussi il y aura une justice et nous serons les premiers à témoigner contre les personnes qui ont falsifié la religion pour d'autres objectifs. Alors mes chers frères, on a compris que nous avons une mission sur terre. Inna sa'yakum la shatta. Shatta, c'est différent. C'est-à-dire, il y en a qui prennent un chemin, il y en a qui prennent un autre chemin. Et c'est ce qui fait la spécificité de l'homme, la capacité à réfléchir, la capacité à cogiter, quand il est exposé face à une tentation ou face à un devoir et une obligation, il réfléchit, il pèse le pour et le contre. Mais quand on dit qu'il pèse le pour et le contre, en fait, c'est un combat, on pourrait dire, c'est une lutte entre son iman, entre sa taqwa, sa piété, sa foi et les insufflations de shaitan, les waswasa et al-nafs al-ammaratum bisou et tout ce que son nafs lui demande de faire. Et dans ces moments où on réfléchit, est-ce que je fais le bien ou non, ou est-ce que je vais vers le mal ou non, on a besoin d'être ferme sur ces décisions. Quelle est la mission? On pourrait résumer la mission de chaque mu'min sur terre à travers trois points. Nous devons construire premièrement notre relation avec Allah. Que nous soyons nés musulmans, de famille musulmane, ou que nous ayons trouvé la lumière, la guider à une étape de notre vie, nous devons garder à l'esprit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Allah nous a créé pour son ibad et rien d'autre. Si on occupe notre temps par autre chose, ce serait perdre notre temps. Si on s'occupe par les bonnes actions, par les projets pour la communauté, subhanallah, on est inshallah sur le sirat al-mustaqim. Deuxième objectif qui résume le bon sa'i, on est en train de résumer le bon parcours. Parfaire, on a dit créer sa relation avec Allah, parfaire sa relation avec Allah en perfectionnement à l'intérieur. Tout ce qu'on appelle le tazkiyatun nafs, la purification intérieure, toutes les qualités, ce qu'on appelle les a'mal al-quloub, les qualités intérieures que nous devons développer. Dans le Tabarak alladhi surat al-mulk, Allah Azza wa Jalla nous rappelle alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour nous éprouver qui de vous est le meilleur en œuvre. Et en commentaire, les Mufassirin rappellent meilleur, c'est-à-dire ceux qui accomplissent les actions les plus sincères. Guérir ce cœur des maladies spirituelles et apporter l'amour pour Allah, la recherche du contentement d'Allah, la prise de conscience du regard d'Allah en permanence sur nous. De cette façon, nous prenons le chemin des pieux. Et troisième point de notre mission, assumer nos responsabilités dans ce monde. Responsabilité, devoir envers notre famille, envers nos parents, envers nos enfants et surtout envers notre communauté, la Ummah. Et c'est ce point qui nous intéresse. Parce que parmi les actions, si on veut vraiment laisser une trace de ce monde, pas pour les gens, mais dans notre livret de compte et pour qu'Allah nous accepte le jour des comptes, il y a une action qui est exceptionnelle et qui est l'héritage direct des prophètes, alayhimu salatu wassalam, c'est le sentiment de devoir et de responsabilité que chaque musulman doit avoir envers la Ummah, envers les musulmans, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, quels que soient les endroits. C'est une qualité des prophètes et ça doit devenir une qualité intrinsèque, propre aux musulmans. Ainsi, le mu'min intelligent, celui qui avance, il perçoit le monde à travers deux prismes. À travers l'obéissance aux ordres d'Allah, c'est ce qu'on appelle la taqwa, mais également le bien qu'il peut apporter aux autres. Et si on a compris la religion uniquement dans notre relation avec Allah, ben on a oublié la moitié. L'autre moitié, c'est tout ce que je peux apporter à mes frères et à mes sœurs. Et ce sentiment de responsabilité, il fait intégralement partie de la foi. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est arrivé à Madina, à Munawwara, la première chose qu'il a fait, c'était de construire la mosquée. Lieu de culte, de ibadah, lieu de réunion. Un endroit également pour les personnes qui n'avaient pas les moyens. Un endroit où les gens allaient apprendre la religion. Autre exemple d'entreprise de notre prophète, alayhi salatu wassalam, pour la Ummah et qui s'est transmis de génération en génération, comme la Masjid Nabawi, lorsqu'il y avait besoin d'un puits pour les musulmans, et que Uthman ibn Affan, on connaît l'histoire, il a acheté avec, mashallah, il a payé l'intégralité du prix qui était demandé et ce puits était profitable pour les musulmans et jusqu'à maintenant, ce puits existe. Ce concept, en guillemets, ces actions qu'on peut mener pour la Ummah, c'est certainement une des actions qui nous sera le plus profitable. On pourrait concrétiser, pour faire simple et concis, le sentiment de devoir et de responsabilité envers la Ummah à travers deux actions qui sont indispensables et qui restent accessibles à tous. Premièrement, la formation et l'éducation des générations actuelles et des nouvelles générations. Ce qu'on appelle le ta'lim, l'enseignement de la religion, et at-tarbiya, l'éducation. Deuxièmement, et c'est ce qui nous intéresse, donner aux futures générations les moyens pour continuer à pratiquer, pour éduquer et à leur tour transmettre cet héritage et ce flambeau du iman à leurs enfants. Ça, c'est le meilleur des fikar, la meilleure des actions qu'on peut faire. Et justement, si on remonte un peu la pendule à 1870, à 1900, lorsque les premiers musulmans venus de l'Inde se sont installés à La Réunion, ils avaient ce sentiment de devoir et de responsabilité envers la Ummah. La plus grande preuve, c'est la présence de masajid, de madrasa et de maqbara de Qabrastan. Et depuis plus de 100 ans, pour parler de notre masjid à nous, nous profitons de cet héritage qui nous a été légué par nos grands-parents. Et donc, les anciens ont œuvré pour la Ummah. Ils ont fait, ils ont laissé leur empreinte dans l'histoire. Et surtout, on ne retiendra pas l'histoire, on retiendra le hisab, dans le livret de compte. Il y aura les prières de chaque personne qui continuera à officier ou à pratiquer jusqu'au qiyama pour toutes ces personnes qui ont œuvré, qui ont contribué à l'édification de cette masjid ou à n'importe quel autre projet religieux. Maintenant, nous concernant 2017, nous ne pouvons nous contenter d'hériter simplement et jouir de ces acquis. Nous devons garder à l'esprit cette vision qu'ils avaient et la vision du croyant à l'échelle de la communauté, à l'échelle de la Ummah, et surtout adapter cet héritage qu'ils nous ont légué aux besoins des nouvelles générations. Nouvelles générations qui ne cessent de croître et qui ne cessent de se diversifier également. Alhamdulillah. Donc en évaluant les besoins qui sont prioritaires. Si on prend un échantillon de 100 jeunes entre 8 et 15 ans maintenant, on va trouver une portion de ces jeunes qui sont originaires de l'Inde, de Gujarat ou d'autres régions de l'Inde. On trouvera une portion de ces jeunes originaires des îles Comores, de Mayotte, de Madagascar, de Maurice et des frères venus de métropole originaires d'Afrique du Nord ou des enfants de reconvertis. C'est tout ça la Ummah. Quand on dit que la population s'est diversifiée, la Ummah maintenant c'est tout ça. Et on doit composer avec tous ces enfants, parce que ce seront les parents de demain. C'est eux qui vont transmettre le dîn à la troisième génération. C'est eux, c'est à eux qu'on va transmettre le flambeau, l'héritage que nous avons eu. Donc le fiqar, le souci pour la Ummah, elle doit être partagée par toutes ces franges de la population. Avoir un seul fiqar, c'est qu'est-ce que nous pouvons apporter à nos enfants. Et dans ce contexte qui est très complexe, on est d'accord, il n'y a pas besoin d'être pédopsychiatre, ni psychologue, ni sociologue pour réaliser qu'on vit une époque très complexe avec beaucoup de sources de troubles, de turpitudes, beaucoup de choses qui perturbent la vie du croyant, mais la vie du citoyen d'une façon générale. Le besoin prioritaire, c'est l'éducation. L'éducation pour préserver nos acquis spirituels, pour donner à nos enfants ce que nous avons nous-mêmes reçu, et c'est notre priorité que nos enfants continuent à faire namaz, à prier, et qu'ils l'enseignent à leur tour aux futures générations. L'éducation pour protéger les futures générations des déviances dans un monde de péché, comme on l'a dit. L'éducation pour protéger les futures générations des dérives sectaires, du fanatisme religieux, cette gangrène qui s'installe là où il y a l'ignorance, où il n'y a pas de ta'alim. Si on a des savants, si on a des mosquées, des lieux de culte contrôlés par des personnes qui ont la connaissance, le jahal, moi je n'appelle pas ça du fanatisme religieux ni de l'intégrisme, on appelle ça de l'ignorance religieuse, ne peut pas trouver place. Et justement la création de la médersa, la madrasa en francisé, médersa, en 1947, fait partie de ce patrimoine. Combien de générations, mashallah, ont connu les bases de l'éducation dans un environnement protégé à l'image des écoles catholiques ou des écoles juives en métropole. Depuis la petite section jusqu'au CE1, CE2 et depuis quelques années, les cours moyens 1 et 2 et, soulignons-le, sous contrat d'association avec l'État, ce qui est unique à La Réunion et peut-être très rare sur le territoire. Et ce qui est à souligner également, c'est que la médersa accueille des enfants de toutes confessions et c'est là où on voit la beauté de notre religion, mais également ce respect profond du sens de la laïcité. Donc vous avez certainement lu les affiches concernant le projet du collège qui se fera, Inch'Allah, à côté de la madrasa. On va dire que ce projet du collège, c'est de la continuité des cours préparatoires, élémentaires et cours moyens. C'est un des projets les plus sensés, les plus importants, les plus responsables pour les années à venir, pour les futures générations. Et ce projet de collège, mes chers frères en islam, c'est une page de l'histoire que nous avons la possibilité de commencer à écrire maintenant. On aimerait apporter quelque chose de fort pour les futures générations, à l'image de nos parents. Nous, pour l'instant, on a repris ce qu'ils ont légué et on a perfectionné. Mais si on veut apporter quelque chose de nouveau, qui aura un impact extrêmement positif, c'est vraiment ce projet. C'est une nouvelle pierre à cet édifice. C'est notre empreinte de l'histoire, un trésor pour les futures générations et bien sûr un investissement pour le akhira. Ce projet de collège, c'est une fatha min Allah avec le niya, l'intention qu'Allah a mis dans le cœur de deux sœurs qui ont proposé les locaux pour être à la disposition de la masjid. Ce sera 10 salles de classe pour accueillir les futurs collégiens. Mais également, les élèves de la madrasa, nos enfants, nos petits-enfants. Donc, nous avons tous la possibilité de prendre part activement à ce projet pour nos enfants en nous engageant moralement, en étant solidaires de ce projet, mais surtout en apportant notre contribution financière de la même façon que toutes les générations ont contribué depuis 1870, où ils avaient une part définie pour aider la masjid de leurs revenus financiers. Donc c'est ce week-end, ça va se passer à la madrasa, le 4 et 5 mars, 2 jours pour financer ce projet. On doit absolument répondre présent en faisant des dons ou en étant présent, en faisant tout ce qu'on peut pour que, inshallah, ce projet voit le jour. Comme on a dit, c'est une transmission, mais c'est également avant tout une sadaqa, une aumône. car le prophète alayhi salat wa salam, et ça, ça va nous apporter beaucoup de bénédictions. On va conclure avec un seul hadith. Le prophète dit qu'il n'y a pas un jour qui se lève sans qu'un ange demande « Dua, Ya Allah, celui qui donne, accorde-lui plus ». Et un autre ange qui dit « Ya Allah, celui qui se retient, détruit ce qu'il a obtenu ». Ça veut dire que le mu'min qui donne pour Allah Azza wa Jal, il trouvera inshallah la bénédiction, la baraka. Qu'Allah Azza wa Jal nous accepte pour ce projet, qu'Allah facilite ce projet, qu'il voit le jour très bientôt. Et qu'Allah renforce la muhabba de notre cœur entre nous, le hubbu fillah, que nous soyons unis et que nous soyons tous sensibles au projet pour la communauté, et qu'Allah Rabbul Izzah, dans sa clémence et dans sa grâce, dans sa puissance, protège nos enfants et les futures générations. Min al-fitani ma zahara minha wa ma batan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.